à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% foot et avec Patrick, nous allons vous présenter cette émission.
Bonjour à toutes et à tous, oui.
Eh oui, mon Patrick, mon compagnon, je dirais, de victoire, en l'occurrence, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, c'est mon compagnon de toujours. Alors, nous allons commencer à débriefer cette journée de Ligue 1, la 20e en l'occurrence. Nous allons parler également de Ligue 2 de Martigues et également parler de match d'Aubagne et du championnat de National. Donc, nous allons commencer à parler de des résultats de cette 20e journée. Cette 20e journée qui a commencé ce vendredi. Avec Montpellier qui recevait Lens, et Lens l'a emporté 2-0. Samedi, Brest a joué contre le Paris Saint-Germain à domicile et a perdu 5-2. Monaco a battu Auxerre 4-2. Lille a battu Saint-Étienne 4-1. Donc évidemment, ce démarrage de journée a été peut-être un petit peu, faisait appel à une réaction marseillaise après, je dirais, nos dernières journées. Alors, Toulouse, dimanche, a fait match nul face à Nice, un partout. Angers a été battu par le Havre 1-0. Reims et Nantes, ont disputé une partie remportée par le Nantais 2-0. Rennes a battu Strasbourg 1-0 et pour terminer en beauté cette journée, cette 20e, hier au soir, l'OM a battu Lyon 3-2. Patrick, nous allons peut-être parler de cette composition d'équipe inédite, au-delà du fait qu'il y avait certains joueurs qui pouvaient commencer ce match et d'autres non, et en l'occurrence, eh bien, nous avons démarré ce match avec une défense qui n'était pas inédite, mais qui était différente que celle habituelle, vu que Brassier, nous l'avons cédé à Rennes. Je dirais, évidemment, qu'il appartenait toujours à Brest. Donc, l'opération s'est finalisée. Et il nous manque peut-être encore quelques défenseurs. On va pouvoir en parler un peu plus tard.
Voilà. Donc on va d'abord commencer par le match parce qu'après le mercato il y aura beaucoup
oui,
de choses à dire.
Oui, il y a beaucoup
dire,
de choses à dire en effet.
On va commencer par le match. La composition a surpris. Nous quand on était dans la file d'attente pour entrer au stade hier soir à Dromel pour entrer au virage sud, on regardait, on disait qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avant-centre, c'était Greenwood qui était en position d'avant-centre, ce qui n'était pas annoncé d'ailleurs par la Ligue. Hein. Ils ont donné une équipe, il n'y avait pas d'avant-centre. Quoi.
Oui.
Et bref.
Difficilement lisible, la composition en elle-même.
L'idée peut se comprendre, c'est un fin technicien qui joue en remise, mais encore faut-il qu'il ait des mecs qui soient offensifs à côté de lui. Et qui puisse jouer en déviation avec des ailiers qui soient des ailiers et pas des couloirs qui ont un travail défensif à faire.
Oui.
Parce que là, c'est un peu un problème. En fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est que on s'est adapté à Lyon qui a un gros milieu de terrain. C'est quand même Tolisso, Matic, Veretout. On savait revanchard Veretout, hein, parce qu'il était. Il a été exfiltré de l'OM au mercato de juillet-août. Il n'avait pas forcément envie de partir, donc on avait un milieu costaud.
Il est vrai que le milieu de terrain était plus que fourni de notre côté.
Côté à Lyonnais, avec également Cherki, qui était positionné ailier droit, mais on sait qu'il joue au milieu, en pointe plutôt haute. Donc, je pense que De Zerbi a voulu éviter ce qui s'est passé à Nice, où tu attaques et tu te fais transpercer sur des contres, avec des problèmes d'alignement où les mecs qui partent sur les ailes alors que toi tes couloirs sont très offensifs.
Dans un premier temps c'était un petit peu la possession qui était le maître mot du début du match, mais en tout cas déjà se mettre en position, je dirais, de possession et ensuite essayer de créer quelque chose.
Voilà, parce que là on voyait clairement que tu avais le ballon. D'ailleurs on est à 71% de possession sur la première mi-temps. Ça s'est un petit peu équilibré, mais en fait, sur l'ensemble du match, on est à 70. donc c'est quand même beaucoup. Et où tu avais le ballon qui circulait entre les centraux derrière, au milieu, et où tu cherchais le trou, la brèche, avec de temps en temps des joueurs qui essayaient d'aller percuter, Rabiot, Nadir, Luis Enrique ou Merlin, qui essayaient d'aller percuter. Mais avec le problème que ton avant-centre, c'est pas un avant-centre qui va chercher les centres, qui appelle au premier poteau, qui fait. Tu vois bien que le mec, il n'a pas les réflexes. Et il a été nettement meilleur en seconde mi-temps quand il a repositionné derrière.
Donc cette possession, évidemment, en première mi-temps, était véritablement stérile, car il est bien beau d'avoir la possession du ballon, mais offensivement, on n'avait pas vraiment de possibilité au niveau axial et sur les côtés, on n'arrivait pas non plus à centrer ou à être décisif.
La contradiction de ça, qui peut aussi expliquer ce qui s'est passé, c'est que Lyon jouait très bas.
Oui.
Visiblement, il jouait avec une ligne de 4 défenseurs et 3 milieux très, 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 très bas, avec Matic qui a été bon et qui nous a beaucoup ennuyés tant qu'il a eu le physique. Dès qu'il a commencé à baisser, ils ont commencé à prendre l'eau au milieu de terrain, d'ailleurs. Et donc, Veretout, donc, et Cherki replié et Tolisso, qui jouait théoriquement en 10, mais en fait a joué milieu. Et donc, ils avaient fait deux lignes. Et donc, tu avais énormément de mal à passer.
Forcément, mais, avec leur technique de plus.
Oui. Voilà, en plus, c'est les bons techniciens. Avec la contrepartie, c'est qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Première mi-temps, les rares actions sur le but marseillais ont été des coups de pied arrêtés, des coups francs dans le paquet. Où tu as une fois, il y a un joueur lyonnais qui a repris de la tête, mais il a mis au-dessus. Oui, mais ils n'ont pas eu d'occasion.
Quelques coups de pied arrêtés.
Voilà. Et nous, on a eu plusieurs situations qui ont été gâchées par maladresse technique, par absence de monde dans la surface. Voilà. Et donc, je pense qu'après, la stratégie de De Zerbi, c'était de s'assurer de ne pas prendre un but en contre au début. Et ensuite, progressivement, lancer des joueurs offensifs en seconde mi-temps à l'heure de jeu pour essayer de... Voilà,
on peut parler des différentes lignes, puisqu'on parlait de devant. C'est vrai que j'ai eu l'impression que Greenwood était transparent en première mi-temps, c'est pas qu'une impression. J'ai du mal à le trouver dans ce registre qui est un peu différent. C'est plus... un joueur de football technicien qui abreuve de ballon ses partenaires, mais faut-il les trouver ? Faut-il
C'est-à-dire que comme il était avant-centre, il repliait, mais quand il avait un ballon, il cherchait un mec devant, il n'y en avait pas, puisque c'était lui devant. Donc c'était difficile, et je pense que ce qui a aussi beaucoup contribué, sans être simpliste, c'est que les Lyonnais ont joué complètement derrière. Ils ont été... Et tu as eu 3-4 situations où tu as réussi à passer sur les côtés, Merlin essentiellement côté gauche ou Luis Enrique côté droit.
Voilà, et Murillo qui avait un registre
bon match,
offensif qu'habituel.
Voilà, puisque comme il y avait le seul Lacazette en pointe, il était avec son ami Balerdi, il s'expliquait entre eux. Voilà, et donc du coup, tu t'es retrouvé avec quelques rares situations où tu avais le seul Greenwood devant. Et là, tu sens que le mec, ce n'est pas un avant-centre, puisqu'il ne sent pas les appels. Il y a eu un moment où une action où Perry, le gardien de Lyon, qui au demeurant a été excellent, a relâché un ballon. Enfin, il a repoussé.
Oui.
Et où il n'y avait personne à la reprise. Quoi. Voilà,
c'est ça, derrière, ça ne suivait pas au niveau offensif.
Et donc, c'est aussi le jeu lyonnais très défensif en première mi-temps. Fonseca avait remarqué le match d'Europa League contre Ludogorets, les Bulgares, jeudi soir, où quand même les Lyonnais ont pris 2 buts, que sa défense était fragile. Nous, on le savait, parce qu'on regardait les matchs. Lui, il était en Italie, donc il ne les a pas vus. Donc il a renforcé en mettant 2 lignes et en coupant tous les accès.
À mon avis, il n'a pas pu s'entretenir avec Sage
oui.
avant de prendre ses fonctions. Malgré ce, évidemment, l'observation lui a donné compréhension, mais évidemment que ce n'est pas une fin en soi.
D'ailleurs, hier soir, j'ai regardé les conférences de presse d'après-match. La question lui a été posée et il a dit « Je voulais d'abord stabiliser derrière, être sûr de ne pas se faire transpercer, parce que si tu prends un but d'entrée, tu t'exposes. Voilà.
D'où cette ligne défensive qui était assez resserrée.
Très resserrée. Et nous, on n'a pas eu. Alors, on n'a pas eu parce que tu peux pas. Tes couloirs sont des hommes qui défendent aussi beaucoup. Oui. Que ce soit Merlin, qui d'ailleurs, normalement, est un arrière. Et Luis Enrique, qui est surtout excellent parce qu'il fait un très gros travail défensif.
En première mi-temps, je l'ai trouvé relativement. Enfin, très défensif.
C'est-à-dire que le problème qu'il avait. En face, il avait Tagliafico, qui, oui, je le rappelle, est le titulaire en équipe d'Argentine et donc champion du monde. Mmh. C'est un mec qui a joué la finale, qui est champion du monde et qui est, c'est un sacré joueur. Et c'est pas un tendre, voilà. Donc c'est pas facile de le passer en dribble, surtout quand tu as le milieu qui défend qui est venu et que tu as une centrale qui sort. Enfin, tu as trois mecs, quoi. Donc, oui, c'est très dur à passer. D'où le fait que Murillo est venu plusieurs fois l'aider. Parce
l'a
que,
retrouver aux avant-postes, voilà, plus souvent qu'à l'accoutumée.
Et sur le côté gauche, les rares fois où on est passé, c'était que Rabiot et puis soit Cornelius qui montait, oui, de la défense centrale, soit un milieu, Nadir en général, venait aider. C'était un triangle qui te permettait, oui, de passer.
Nadir a essayé justement, voilà, de créer de quelques possibilités,
oui,
je
dirais,
de jeu.
Oui, il a essayé, y compris de passer seul, de partir en dribble. Mais bon, il s'est fait prendre, c'est difficile, c'est un jeune joueur.
Oui, il a été un peu emprunté sur ce match-là, voilà, mais c'est, oui, on peut le comprendre.
Voilà, il a essayé, ouais, ouais, parce qu'il voyait que... Mm-hmm. Donc, à la mi-temps, je pense que... De Zerbi restait comme ça, mais le projet devait être de rentrer, puisqu'on nous avait dit, il avait été annoncé dans, mm-hmm, la presse et autres, que Guiri rentrerait en seconde, oui, mi-temps. Le mec qui vient d'arriver, il est arrivé vendredi, tu ne peux pas le lancer d'entrée. Hein,
je ne voyais pas De Zerbi changer de fusil d'épaule totalement, oui, voilà, du style faire rentrer un véritable avant-centre type Mopé ou Vance. Mais donc, oui, Mopé, Greenwood était une solution, en l'occurrence, qui a été utilisée.
Voilà. Et Mopé, il est comme les deux défenseurs centraux lyonnais, c'est plutôt des costauds.
Oui.
Un peu comme il y a eu à Nice, il a un mec de il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et Vaz, c'est un jeune qui prend la profondeur, ouais, qui est un peu tendre au niveau expérience, au niveau vice. Quoi. Mm-hmm. Tu as les mecs expérimentés devant, te fait bouffer. Quoi. Et donc, il n'a pas d'ennemi parce que tu n'as pas de place. C'était le problème, d'ailleurs, on en reparlera en parlant Mercato, d'Eli Wahi, oui, qui est un joueur de profondeur. Et quand les mecs défendent de bas, ben, tu n'as pas d'espace. Voilà.
Mais très par compliqué contre, de tirer son épingle,
voilà,
du
par
jeu.
Par contre, le problème, c'est qu'on n'a jamais été en danger, mais on a été que deux, trois fois dangereux sur des actions où on a pêché à la finition. C'est là qu'un tueur dans la
voilà
surface...
Voilà ce que nous attendions, ce qui était dommageable en première mi-temps, vu de ce match. Nous attendions justement, mince, alors va-t-on utiliser Wahi? Est-ce véritablement le buteur que nous attendons? À vrai dire, j'ai quelques doutes à ce sujet. C'est pas le joueur en question. Je pense que le tueur, façon de parler, c'est Greenwood, oui, qui doit jouer ce rôle-là, car nous n'avons pas l'offensif, je dirais, capable, je goléador de ce type. Mais voilà, l'appui de Guiri, et nous l'avons bien vu sur cette deuxième période, bah, je pense justement aller dans ce sens.
Alors, Guiri, il faut être clair, on sait que ce n'était pas la première piste de Longoria et Benatia au Mercato. Oui. Mais les pistes, soit c'est Jiménez, le Mexicain de Feyenoord, qui va signer à l'AC Milan. Et c'est 45 millions, 50
voilà,
millions.
On ne peut pas, rivaliser avec ces clubs-là.
Je ne parle même pas du salaire, on parle de 800 000 euros. Tu ne peux pas. C'est impossible. On rappelle que l'année passée, on avait Aubameyang, qui était à 650 000 bruts par mois. Oui, mais Aubameyang, il est arrivé libre.
Comme avec Sanchez, c'était le joueur sur... qui devait tout reposer.
Voilà, c'est le joueur qui était prêté, donc tu peux le payer cher parce que tu ne l'as pas acheté. Si tu mets 40-50 millions sur un joueur et qu'en plus tu dois aller filer une blinde, tu ne peux pas. C'est pas, l'OM n'a pas les moyens. En France, à part Paris, personne ne les a. Donc, on avait des pistes là-dessus. En fait, la piste sur laquelle travaillait l'état-major olympien, c'était un prêt. Donc on a été sur Ferguson, l'international irlandais de Brighton.
Nous en avions parlé dernièrement.
Voilà, que De Zerbi connaît bien. Malheureusement, en plus d'un salaire Première Ligue, des clubs de Première Ligue étaient dessus pour le prendre avec option d'achat à 60-70 millions.
Là, c'est pareil. On ne peut pas rivaliser à ce niveau-là.
Tu as été sur Matistel, mais finalement, le Bayern veut le vendre. Mmh. Là aussi, on parle de 60 millions.
Voilà, c'était le profil attendu. Voilà,
c'est comme si tu me disais, j'espère Erling Haaland. Ben oui, va le chercher à Manchester City.
L'espoir fait vivre, permet d'espérer, mais on peut toujours espérer.
Et donc, tu t'es rabattu au dernier moment sur un mec qui a l'avantage de bien connaître la Ligue 1, d'être bien adapté à notre championnat, parler français couramment. Mmh. De connaître déjà plusieurs joueurs d'équipe de France Espoir, comme, puisqu'avant d'être international algérien, il était en équipe de France Espoir, donc il connaît quelques gars, il parle français évidemment, et lui avait envie de venir en plus, puisqu'il semblerait
qu'il n'est pas négligeable.
Voilà, il a mis la pression à Rennes pour qu'on le laisse partir. Donc tu t'as pris un joueur qui n'est pas un avant-centre en pointe, qui n'est pas une pointe, qui n'est pas un style Hawaii, qui est un joueur plus en retrait, plus 9,5, qui peut jouer ailier gauche, qui a longtemps joué ailier gauche à Nice, mais qui n'est pas un véritable avant-centre. Alors, il peut jouer avant-centre quand il était jeune.
Oui, c'est vrai qu'à Lyon, avant sa grave blessure au genou, à Lyon, il démarrait un peu dans ce sens-là. Après, à Nice, ça a été un peu plus compliqué et Rennes ne l'a pas utilisé dans ce registre-là.
Voilà. Alors, et disons que c'est un garçon qui n'est pas une vraie pointe. Par contre, un faux neuf, c'est-à-dire un remiseur, il a une grosse qualité, c'est une excellente technique.
Oui.
C'est un fin technicien. D'ailleurs, il nous l'a montré hier soir. Dès qu'il a eu les ballons, tu vois que le mec, il n'est pas embarrassé avec le ballon.
Au-delà du but qu'il a justement provoqué, peut-être, certainement, un tir qui n'était pas justement comme il le désirait, qui s'est transformé en passe décisive, et tant mieux.
Été détourné d'ailleurs, il a fait une belle action où il crochette, il efface et il frappe. Je pense que le gardien aurait été à la parade, mais le ballon est détourné par Matic. Et donc, il se retrouve arrivé au deuxième poteau dans les pieds de Greenwood et ça fait but.
Et nous l'avons vu également provoquer devant pas mal de situations dangereuses qui pouvaient aller au bout.
Il a même été bon parce qu'il a tiré des corners. Oui. Il les a bien tirés, puisque le second but vient d'un corner. L'action est repoussée. Après, on revient. C'est sur le second temps de l'action que Greenwood passe. Fait une très belle passe lobée à Højbjerg, qui remet sur Rabiot, qui fusille, qui marque, qui lobe Péri. Et donc, il a quand même les bonnes qualités de ballon. Mais par contre, il faut être clair, c'est pas un gros buteur. C'est un mec qui marque, mais comme Greenwood, c'est un mec qui marque, mais c'est pas un vrai buteur. Voilà, c'est pas un marqueur de but, quoi. Mais c'est un fin joueur qui peut être utile.
Ah, je pense qu'il va pouvoir justement faire marquer des buts à ses partenaires offensifs.
Oui, qu'il va pouvoir. D'ailleurs, je regardais après en rentrant à la maison, j'ai regardé l'équipe pour avoir le débrief. Et il y avait Obraniak, qui est quand même un ancien joueur de haut niveau, qui connaît le foot, qui disait que lui voyait une équipe en 3-5-2 avec une ligne de 5, les deux. Donc, Luis Enrique Merlin, les deux hommes de couloir, et un milieu avec Højbjerg en pointe basse, Rabiot et Rongier, et deux pointes qui seraient Greenwood et Guiri.
C'est un petit peu dessiné, je trouve, en deuxième période.
Les deux ont joué un peu comme ça, et là tu vois que Greenwood, quand il a du champ devant lui, qu'il est en 9,5-10, il est beaucoup plus dangereux. Oui. Il a mis un but, il est sur une action décisive sur le second et il est présent, il a fait des choses intéressantes parce que le gardien lyonnais a fait 2-3 beaux arrêts et donc lui, il a été dans le jeu à plusieurs reprises. Oui. À un moment, il a très bien décalé Murillo, donc il a fait des bonnes choses. Et il est beaucoup plus efficace.
Il peut évoluer et s'exprimer de la meilleure des manières dans cette configuration que nous avons vue en seconde période.
Voilà, mais par contre, si tu pouvais avoir un avant-centre qui fixe la charnière et qui suit tous les ballons et qui essaie de récupérer les centres, ça serait pas mal.
Ouais, ça, mais là, ça handicaperait notre lien offensif de l'équipe.
Ça voudrait dire que Rabiot retourne à sa place au milieu et que tu mets une pointe avec Greenwood et Guiri en attaquant le soutien. Où là, c'est des fins techniciens, ça pourrait être intéressant. Mais tu sacrifies qui, Rongier ou après. Bon, après, si tu as des suspensions ou des blessés, tu peux tenter ce coup-là.
Toujours
ça devrait
moduler
tenir
en
la
ce
route.
Sens, bien sûr.
Voilà. Mais donc, nous allons, on va bien voir. Mais en tout cas, en deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lâché les chevaux. Une fois que Lyon a marqué, joli but sur lequel Rouli ne peut rien faire. Hein. Enfin, il est battu à bout portant par Tolisso. Avec une passe de Cherki, mais où était Cornelius ?
Bon, voilà.
Voilà, mais bon, en tout cas, l'action est belle. Oui. Tu prends un but, là, tu t'es lâché. C'est là que De Zerbi a fait les changements.
Vraiment appréciable, cette réaction collective.
Voilà, il a fait rentrer Guiri, donc il a sorti Nadir, qui était un milieu relayeur. Il a fait rentrer Guiri d'un pointe. Mm-hmm. Et Guiri, à l'entrée, je pense que c'était son premier match. Il a été très applaudi par le public quand il est rentré. Mm-hmm. Il devait avoir les crocs qui faisaient le sillon sur la pelouse. Mm-hmm. Et en tout cas, il a fait une très bonne rentrée.
Ce qui... Ayant vu le match à la télévision, je voyais déjà sur le banc de touche que il a ça le démangeait.
Il était chaud.
Avait une envie terrible
de rentrer. Et donc ça, c'est une chose très positive, parce que autant Wai, son premier match, il avait vendangé, mais alors c'est pas permis, quoi.
Si on peut parler justement d'une première, si on fait un comparatif avec Wai, il est évident qu'on est véritablement totalement opposé dans c'était quelque chose de tout un bonheur pour la finalité.
Oui, voilà, c'est à dire que Wai, il a été applaudi à l'entrée, le premier match contre Reims, c'est la deuxième journée. Il a vendangé, mais alors 3 ou 4 ou 5 occasions nettes. Il a, en particulier, il a raté 3 ballons, comme on dit, ma grand-mère le marque, des trucs énormes. Et il est sorti à la 70e sous les sifflets du stade.
Et ça, il a gardé jusqu'à la fin.
Oui, voilà. Et le gars, il s'en est pas remis.
Ça a été un poids pour lui qui a été...
Et là, Guiri, il est rentré sous les applaudissements. Mmh. Le public, on était mené 1-0, attendait. D'entrée, ses 2-3 premiers ballons, il a fait des bonnes actions. Il est sur le premier but... indirectement, puisque la passe décisive lui est pas créditée, mais sa frappe au contré permet à Greenwood de marquer.
Il est vrai que que le ballon ait été contré, ce n'est pas comptabilisé comme passe décisive.
Voilà, c'est pas comptabilisé.
D'accord.
Mais disons qu'il a été dangereux, il a fait un bon match, et donc il sort avec un truc positif, il a de la marge. Ce qui n'a pas été le cas du pauvre Wai, qui d'entrée s'est fait...
Ça lui a coupé les ailes d'entrée.
C'est là que tu vois que Marseille, pour jouer au Vélodrome et à l'OM, il faut un mental d'acier. Je ne sais pas si on en avait parlé sur cette antenne, mais j'avais vu une interview de Didier Drogba sur l'équipe.
Oui.
Où il disait que son premier match... Alors, je rappelle quand même que Drogba, il était venu en attaquant en second.
Oui.
La star, c'était l'Égyptien Mido. C'était lui la star. Théorie, le grand buteur, qui arrivait de l'Ajax. Lui, il arrivait de Guingamp, c'était le jeune prometteur.
Mais pourtant...
Il avait pas mal vendangé et il s'était fait secouer. Oui. Et il avait expliqué, donc à l'interview de l'équipe, soit tu baisses la tête, tu travailles encore plus et tu fais maintenir les sifflets, soit tu t'effondres. Et lui,
il a travaillé énormément pour se faire.
Et il avait fait changer le public. Et c'est resté une idole alors qu'il a fait qu'un
je dirais surtout la saison de cette année-là de l'Olympique de Marseille.
Où on va en finale de l'Europa League, où il marque plein de buts et où il est resté une légende à Marseille en ne jouant qu'un an. Et alors que l'autre, Wai, malheureux, c'est sûrement un garçon de qualité, mais lui, mentalement, il a plongé.
Voilà. Il est évident qu'il n'était pas armé justement pour ce faire, et j'espère pour lui une réussite pour son cas voilà. personnel en Allemagne. Oui. Mais bon, occupons-nous de nos joueurs.
Voilà, et moi ce que j'ai particulièrement apprécié hier soir, hormis l'ambiance qui était géniale.
Ah, fabuleux.
Quand tu gagnes comme ça, c'est génial. Mais ouf. En plus, c'est que tu es mené 1-0 contre le cours du jeu. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Ils ben en non. ont une ou deux après le but, après le premier
c'est
but.
C'est là que, heureusement, que nous n'avons pas pris le second but.
Voilà.
Parce que là, ça n'aurait peut-être pas été irrémédiable, mais ça nous aurait...
Ah, ça nous aurait bien galère, heureusement,
ah ben,
qu'on a un bon gardien.
Oui.
Voilà. Là, il a encaissé le pénalty. C'est le premier sur quatre qu'il encaisse. Les trois précédents, il les avait arrêtés.
Mais... On osait presque imaginer qu'il allait arrêter celui-ci.
Voilà. Après, la Lacazette, il lui a mis un missile en lucarne. Il est parti du bon côté, mais
bon, le petit chambrage après n'était pas trop sympa, mais c'est bien, ça a galvanisé nos joueurs. Et il n'en valait pas plus.
Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu es mené 1-0 contre le cours du jeu. Tu prends le ballon, tu attaques. Tu te prends un ou deux contre. Tu t'en sors juste. Mais tu continues à attaquer, tu trembles pas, tu égalises, tu mets le second, tu mènes 2-1, tu contrôles le match, tu prends un péno sur une action. On rappelle que le règlement a changé. Si, parce que le règlement, il y a encore un an, c'était...
Au camp bien même, il n'y a pas si longtemps que cela.
Oui, ah ben cet été, ça...
Le ballon
qui rebondit sur
un membre inférieur.
Qui touche le bras... accidentellement,
dans
c'était pas pénalty.
Ouais,
maintenant, c'est plus le cas. Mm-hmm. Donc, le ballon rebondit sur sa cuisse et il revient sur son bras.
Oui, alors on parle de la position des bras également, mais compliqué d'être contorsionniste sur une action pareille. Mm-hmm. Comment ne pas avoir les bras en l'air à ce moment-là
D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que l'arbitre n'avait pas sifflé le pénalty.
Oui.
C'est le VAR qui lui signale. Mais donc, il y a péno, ils égalisent contre le cours du jeu. Et tu reprends le ballon, tu reprends le match en main, et tu arrives et tu te crées 4-5 occasions. Parce que je disais que le gardien de Lyon était très bon,
ouais, il était bon.
Mais il en sort 2 ou 3 en fin de match.
Oh, oui.
Des frappes, des super sorties.
Si je puis me permettre, au-delà d'une maladresse, je dirais, d'un de nos défenseurs que je citerai volontiers, Maître Cornelius, qui s'est retrouvé un peu, je dirais, surpris. Ben, carrément, devant les cages, il n'y avait plus qu'à pousser. Mais même le gardien a été surpris, adverse.
Ben, c'est-à-dire, le gardien était à terre, et lui, il n'avait qu'à soulever légèrement. Il était dans les 6 mètres.
Hein. Et je ne parlerai pas de ma pauvre grand-mère qui n'est plus là.
Voilà, oui, moi non plus. Et le gardien, il lui tire dessus. Et donc, le mec l'arrête, et il se demande comment il a fait. Mais il a fait si long sur des frappes de Greenwood, de Guiri. Il a fait des arrêts de belle qualité.
Bah, Guiri également aurait pu marquer un but également.
Ouais. Et donc, on tient, et malgré tout, on tient à 3-2. Et on tient jusqu'au bout. Et ça, mentalement, c'est important. C'est que l'équipe, contrairement au début de saison, où tu as l'impression que le Vélodrome faisait peur à certains, on va en parler tout à l'heure dans le mercato, c'est les gars qu'on
cet
a
cet état d'esprit est fabuleux.
Voilà. Et par contre, il y a des gars qui n'ont pas baissé la tête, qui se sont battus. Alors c'est sûr, moi je l'ai vu, mais on en a parlé sur les réseaux sociaux, à la télé, dans l'équipe, dans la Provence et tout. C'est sûr que quand tu as des leaders comme Rabiot, comme Hoiberg, comme Balerdi, Rongier, des mecs qui...
Alors, Rongier, pour parler de Rabiot, au-delà de rameuter toute son équipe autour de lui, même les supporters,
il a
réussi justement à les déchaîner déjà. Enfin, fallait-il le faire C'était pas nécessaire, mais en tout cas, il a réussi à mettre ce soutien.
Tu as des mecs qui n'ont pas baissé la tête, qui se sont battus. Et du coup, tu y arrivais à gagner à l'arrache. Mentalement, c'est important parce que là, on a une suite de 4 matchs.
Oh oui. Nonobstant Angers, ce qui va suivre va être terrible.
Voilà, on reçoit Saint-Étienne, on va à Auxerre, on reçoit Nantes. Les utopiques diront, si on prend 12 points, le podium sera quasiment assuré. C'est jamais assuré, hein, mais enfin, parce qu'après, il faudra aller à Monaco, il faudra aller à Lille, il faudra
aller
à Paris.
Voilà, c'est surtout ces matchs suivants, là.
Tu vas à Paris après, tu vas à Monaco et tu vas à Lille. Lille, je crois que c'est la 31e ou 32e
oui, journée. Si je puis me permettre, je ne parlerai pas d'utopie, mais de progression logique dans ce sens-là.
Voilà, en se disant qu'on va espérer que Monaco, Lille, Paris... et même Brest.
Ben, mais bon, tous ces matchs de Coupe d'Europe qu'ils disputent, voilà, s'enchaînent. Et d'ailleurs, là, ben, évidemment, qu'eux aussi arrivent sur des phases finales, les
voilà,
qualifiés.
Voilà, c'est les équipes qui sont également qui sont en Coupe de France pour Lille,
aussi,
malheureusement, on le sait. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de matchs. Et on peut espérer qu'il y ait de la fatigue. Et que donc, mais bon, il va falloir prendre les points contre les équipes dites de deuxième moitié de tableau. Et là, tu t'ouvres les portes. Et mentalement, d'avoir réagi hier, d'avoir battu Lyon. Bon, Lyon, ils sont à 10 points. Alors, c'est pas fini. Il reste 14 journées. Mais quand même, 10 points, c'est 10 points.
Non, il est vrai qu'arriver, donc là, la 21e journée prochainement, que là, ben, nous sommes, nous, à 10 points du Paris Saint-Germain, donc second, Paris Saint-Germain avait 50, nous 40. L'AS Monaco, évidemment, ben, est à 3 points derrière nous. Lille, on les a un petit peu relégués, ils sont à 5 points de nous, avec 35 points. Nice à 34, là, c'est à 33, et on a mis 10 points dans la vue à Lyon, qui est à 30 points.
Voilà. Voilà, et même Lens l'aurait passé devant, je crois, grâce à son succès à Montpellier.
Ben ouais, Lens a 3 points de plus,
33. Et,
ouais.
Et Lens, on les reçoit.
Et oui,
on les
ça fait partie du programme à
donc
venir.
Donc ça fait la possibilité, si tu les bats, de les éloigner. Donc c'est intéressant. Reste à voir, on va peut-être en parler bientôt, le mercato.
Voilà.
Alors...
Alors, il est vrai que, bon, ben, là, nous sommes évidemment à la clôture du mercato qui va peut-être se prolonger pour d'autres, mais nous arrivons au terme. Donc, déjà, nous avons quelques arrivées. Bon, on n'est pas sûr de tout. Pour l'instant, on fera le point très, très prochainement.
Oui, la semaine prochaine,
voilà,
on pourra faire le
point. On pourra dire ce qu'il en est exactement.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Longoria et Benatia ont réussi deux très jolis coups.
Oui.
C'est d'exfiltrer les deux joueurs qui mentalement n'étaient pas... Voilà.
On aurait pu employer un terme un peu plus péjoratif pour parler d'eux.
Oui, mais Eli Wahi, qu'on avait acheté 25 millions, plus 5 de bonus, mais qu'on ne paiera pas puisqu'il s'en va.
Ben oui.
Voilà. On l'a vendu à Francfort 26 plus 3 éventuels,
voilà.
Plus je crois 15% à la revente s'il y a un bénéfice.
Mmh.
C'est-à-dire, s'il est revendu 50, on prend 15% de la différence entre 26 et 50.
On est dans le show business, toujours.
Voilà, on est...
Il faut gérer.
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait avec les trois jeunes qui ont quitté le club, qui sont partis, qui sont des garçons sur qui on vend à 800 000 euros, enfin des sommes faibles, mais avec la priorité de rachat sur une somme type 8 millions si le mec il explose, et un pourcentage à la revente de l'ordre de 30 à 50% entre Sternal, Niakossi et Soglo. Et donc, tu...
Complètement. Mettre au point, justement, avant les transferts, ce type d'opération.
C'est-à-dire que tu dégages des joueurs qui ne jouaient pas, qui jouaient peu. Après, même Sternal, moi, j'aurais préféré le garder parce qu'il a dit...
Pareillement, parce que c'est un joueur de qualité qui est jeune.
Voilà,
et
c'est un créateur qui a du ballon. Mm-hmm. Mais le mec, l'entourage peut-être, voulait partir. Et finalement, il va à Anderlecht en Belgique.
Oui.
Où là, effectivement, il va jouer, il va être titulaire.
Il fallait optimiser, évidemment,
bon,
c'est
compliqué
la gestion du club.
C'est compliqué de... Surtout une année où tu ne joues pas de Coupe d'Europe. Donc, il n'y a pas des matchs en semaine qui t'obligent à faire retourner ce que fait Lille, ce que font d'autres clubs. Ça te permet de donner un peu le temps de jeu à tes jeunes. Toi, tu joues le championnat. Quoi. Donc,
Tu ne peux pas, gérer un effectif plus fourni que cela.
Tu as exfiltré les joueurs. Tu arrivais à vendre Paulo Lopez, qui était que prêté à Gérone. Tu as cassé le prêt et tu l'as vendu au Mexique.
Oui.
Voilà,
alors ça y est, c'est finalisé.
C'est finalisé, 6 millions, donc tu récupères un peu les sous. Tu as dégagé Brassier. Alors Brassier, on rappelle, pour nos auditeurs, il était prêté par Brest avec option d'achat quasi obligatoire. Tu as cassé le prêt.
Ouais.
Donc c'est Rennes qui maintenant l'a pris avec option d'achat quasi obligatoire.
Bon, on va retrouver une région qu'il connaît déjà.
Voilà. Donc il a été formé à Rennes, d'ailleurs, avant d'aller à Brest. Ouais. Donc tu t'es débarrassé d'un gars qui était en échec. Mm-hmm. Tu t'es débarrassé de Hawaii, ça c'est des jolis coups. Tu n'es pas arrivé à sortir un ou deux joueurs supplémentaires, mais bon, tu peux pas... Bon, Mbemba, le mec, il veut pas partir.
Enfin, c'est il... très dommageable, je me répète. Ouais, mais bon, ouais, ben là, en l'occurrence, on ne peut pas revenir sur le passé.
Voilà, sur le passé. Si tu arrives, comme ce matin, c'était annoncé comme officiel à vendre Koné à Rennes.
Ce qui pourrait être finalisé dans la journée.
Oui, qui doit être normalement finalisé dans la journée pour une somme autour des 12 millions que tu l'as payé en Angleterre.
Oui, ça correspondrait.
En juillet, tu récupères tes billes, tu récupères de l'argent, ça te permet d'avoir une marge. Là, tu as recruté Luis Felipe comme défenseur central droitier, qui peut jouer arrière droit, qui est un bon joueur du championnat.
Voilà, justement, nous attendons beaucoup, je dirais, de renfort au niveau défensif. Et en l'occurrence, Luis Felipe, nous avons hâte de le voir à l'œuvre.
Voilà, là, comme il était en Arabie Saoudite, où il a été, comme ça se fait beaucoup dans ce pays, il a été mis au rancard parce qu'ils ont signé d'autres gars.
Oui, le nombre d'étrangers qui restent limités.
Le nombre d'étrangers est limité. Donc, il a été mis sur la touche. Il n'avait plus joué depuis juillet. Donc effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé avec Rabiot quand il est arrivé en septembre. Le mec, il n'a pas joué depuis 3-4 là, et ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué.
En espérant qu'il soit capable de trouver des performances identiques.
Voilà,
ça
tu ne le mets pas d'entrée, il faut d'abord une préparation assez lourde, fatigante. Donc il fait ta pré-saison là, mais donc il devrait rentrer. Il te manque quand même un défenseur central gauche.
Oui.
Parce que Cornelius...
Et Kondombia, je pense qu'il a...
Alors,
c'est un souci. Est-ce qu'on va penser à lui pour prendre cette position si on ne trouve pas de défenseur
axial? Si on n'a pas mieux, Kondombia, il a montré avant sa blessure, en fin d'année, que un stopper gauche, il faisait le taf.
Ah, totalement.
Et au moins, il a une qualité de relance, bonne qualité de relance.
Ne comparons pas avec Brassier ou Cornelius.
Voilà, donc on a été sur des joueurs... ou bon, trop cher, ou on avait un Anglais de Newcastle, Kelly, mais il y avait plusieurs clubs de première ligue.
Difficile de
s'aligner. Ça, c'est les salaires. On a été sur des joueurs qu'on en connaissait certains. Mm-hmm. Là, il se dit que c'est Aaron Anselmino, qui est un Argentin. Mais qui a un passeport italien, je crois.
Et oui, c'est important là aussi,
D'avoir des joueurs. Pour le nombre de joueurs étrangers qui appartient à Chelsea, qui a 19 ans et qui est prêté à Boca Juniors où il est titulaire. Il est même, il a une ou deux sélections en équipe d'Argentine. Mais en Argentine, une sélection, fois, ça ne veut pas dire grand-chose.
Il est vrai.
Mais bon. Et on dit que Chelsea est d'accord pour le prêt. Ils ont le même problème qu'a eu Paris. Ils ont trop de prêts. Il faut qu'ils dégagent pour pouvoir prêter un Anselmino.
Ouais, il faut l'harmoniser, le jeu des chaises musicales. Et puis, il y a...
Voilà, mais d'après ce qui se dit sur Foot Mercato et autres, c'est fait. C'est fait s'ils arrivent à dégager un gars, comme Paris a fait pour Colomani, pour Skriniar. Tu vends un mec, tu casses un prêt et tu peux. Voilà. Donc, ça, ils en seraient là-dessus. Et donc, il y aurait lui en défense centrale. Et on a signé un Bosnien, un Bosniaque.
Voilà, oui. Alors...
honnêtement, il ne connaît pas.
Voilà, qui vient d'Autriche.
Il jouait au Red Bull Salzbourg.
En effet.
Qui est quand même une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il a joué 7 des 8 matchs de Ligue des Champions du Red Bull.
Qui a quelques sélections avec la Bosnie.
Voilà,
je crois qu'il a marqué un but en étant défenseur.
Voilà. Bon, alors, d'après ce qu'on sait, il a 22 ans.
Oui.
Il était capitaine du Red Bull Salzbourg, ce qui veut dire quand même que ça doit être...
quelqu'un qui a de l'énergie à
revendre. Oui, qui a du leadership.
Ouais.
Alors, il joue couloir droit, arrière droit, couloir droit, mais il peut jouer en défense à 3, stopper droit.
Voilà, c'était la question, parce qu'il est vrai qu'on a Luis Felipe qui partirait un peu dans ce registre-là.
Dans ce registre-là.
Alors, il est vrai que axial gauche, voilà un petit peu quelques carences chez nous.
Voilà, donc Anselmino, ça serait le cas, donc ça peut être intéressant. Sinon, reste la possibilité de... Parce que Murillo fait ses matchs. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait ses matchs.
Il faut reconnaître la progression constante de ce joueur et qui apporte beaucoup plus offensivement que ce que l'on pouvait penser.
Oui, voilà, qui fait ses matchs. Quoi. C'est un mec correct. Ouais. Moi, je dis toujours que tu regardes par rapport à certains, c'est que Murillo, tu l'as acheté 2,5 millions d'euros à Anderlecht, en Belgique. Voilà. Tu peux pas attendre de lui ce que tu attends de Wai, que tu as payé 25 millions plus 5 de bonus ou de Vitinha.
Il est vrai, malgré tout.
C'est sûr que c'est pas les mêmes tarifs. Quoi. Mmh. C'est pour ça qu'on est indulgent avec Cornelius, que tu as acheté 3 millions. Ou avec Luis Garcia.
Alors, voilà. Et pourtant, je trouve que Murillo et Luis Garcia tirent un peu plus leur épingle du jeu que Cornelius, pour ne pas le citer.
Voilà, oui, c'est-à-dire que c'est moins visible, ils sont latéraux.
Oui, c'est vrai, donc aussi.
Sa
position axiale,
le mercato, on attend la confirmation du départ de Koné.
Oui.
Je ne pense pas qu'on arrivera à exfiltrer Harit ou un truc comme ça d'ici ce soir 23h.
Non, il finira la saison, très probablement.
On parle de résiliation pour Ruben Blanco, ce qui serait peut-être... Mais le mec, il résilie s'il a un contrat derrière, s'il a une place. Donc, c'est un peu compliqué.
Un gardien de but de trop.
Voilà, et oui, parce qu'on rappelle qu'il avait été sérieusement blessé. Il est revenu quand... Fin décembre, début janvier. Mmh. Il avait été blessé en préparation, un match amical en août. Et que du coup, tu avais pris le jeune de Lange, qui joue le Hollandais. Mmh. Parce que tu avais un gardien qui était out pour pratiquement pour la moitié de la saison. Donc, tu joues comme ça. Mais bon, si tu peux l'exfiltrer, mais c'est pas énorme, c'est pas un gros salaire. Non, c'est plutôt Harit, si on peut. Et puis, c'est un mec que tu fais pas jouer parce que tu n'as plus que le championnat. Donc,
c'est vraiment problématique pour lui et pour l'équipe.
Voilà.
Parce qu'on l'handicape quelque part.
Malheureusement, il s'était blessé au mollet. Donc, depuis 2 mois, il est blessé. Donc, il joue pas. Tu peux pas l'exposer. Donc, c'est complexe. Et les équipes n'aiment pas prendre un joueur qui n'est pas opérationnel. Voilà, c'est... Tout à l'heure, on a parlé d'Evan Ferguson. Il a été blessé à la cheville, il ne joue pas. Donc, les clubs, avant de le prendre, tu regardes. Mais ça fait 2 mois qu'il est blessé, il n'a pas joué. Donc, ça te...
C'est vrai qu'il y avait quelques interrogations au niveau du milieu terrain, je dirais, offensivement parlant, pour un créateur, ce que l'on attendait d'Harit. Et on avait même pensé peut-être que Greenwood pouvait prendre cette position. Mais bon, là, en l'occurrence, les 4, voire les 5 à venir du milieu pourront justement pallier cela. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres projets à ce niveau-là.
Sur ce qu'on sait, alors, on rappellera, tu parlais de Harit, on rappellera qu'en août, quand le championnat a commencé, dans le recrutement, Harit,
Carboni, c'était un problème.
Valentin Carboni, l'international argentin, qui venait de l'Inter de Milan en prêt et qui était prévu comme titulaire en meneur de jeu.
Un talent en devenir et un joueur de forte qualité.
Voilà, pas 20 ans, international argentin et un joueur de qualité. Malheureusement, il s'est fait les croisés en octobre en équipe d'Argentine pendant un match de préparation à la Coupe du Monde. Enfin, en préparation du match, pas pendant le match. Il s'est fait les croisés, donc il est out, terminé. Voilà. Donc lui, tu l'achèteras pas. Il était en prêt avec option d'achat de l'Inter Milan. Tu le prendras pas. Il retournera à l'Inter Milan tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc c'était lui et Harit.
Ouais.
Lui, il s'est blessé. Harit, depuis son expulsion contre Paris, il a été blessé. Donc voilà. Donc c'est de notre côté.
Donc l'animation offensive, la création en elle-même, évidemment, a changé un petit peu, a évolué depuis.
Ça reste essentiellement sur Greenwood, en pensant que peut-être Guiri, s'il joue un peu plus en retrait, pourrait jouer ce rôle-là. C'est un bon technicien.
C'est un peu
bon
la combinaison passeur. Qui pourrait justement être la panacée dans cette idée-là de réussite offensive et de création.
Alors là, sur le mercato, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a ça. C'est-à-dire le Bosnien qui va arriver, Amar Dedić, honnêtement, je ne le connais pas.
Oui, on va faire connaissance.
On m'a montré ce matin quelques images prises sur Internet, mais évidemment, tu ne vois jamais que des coups d'éclat. Il y en a une, il déborde, il fait un petit pont au défenseur devant. Mais enfin, ça, c'est, voilà, c'est un match, quoi.
Voilà, on va, c'est pas là qu'on va pouvoir juger. Voilà,
le mec, il a une centaine de matchs en pro, il a fait une fois, quoi. Voilà. Et c'est un couloir droit ou défenseur latéral droit qui peut jouer un peu axial, comme Murillo, il peut jouer axial. Voilà. Okay. Alors lui, franchement, honnêtement, je ne connais pas.
Bon, sur les options du prix, nous en parlions dernièrement, donc ça sera en fonction, je dirais. Il nous reste quoi, la moitié des matchs à disputer.
Oui, voilà.
S'il a joué.
Il est prêté avec option d'achat à 10 millions.
Dans la mesure.
S'il joue la moitié des matchs qui restent à jouer.
Qui restent à jouer, ouais.
Alors, je crois que le match d'hier compte, puisqu'il a été transféré avant.
D'accord.
Non, il n'a pas joué. Donc, le coup classique, si mec de Zerbi pense que, ou Benatia et Longoria, il pense que, comme par hasard, il ne joue plus.
Et oui. On se demandera donc, pourquoi.
Voilà, donc l'option d'achat n'est pas, voilà, n'est pas enclenchée.
En espérant que peut-être nous ayons une bonne surprise sur
après, ce joueur-là. Oui, après, quand tu regardes, on a Murillo, on a Lirola. En termes de couloir, tu as Luis Enrique. Tu as Rongier qui peut descendre en couloir droit aussi. Donc, tu as quand même du monde. Si tu ne veux pas le faire jouer, tu ne le fais pas jouer. Voilà, nous verrons bien, mais honnêtement, je ne le connais pas.
Non,
Luis Felipe, je me rappelle quand il jouait à la Lazio,
je m'en souviens,
avec Simone et Inzaghi comme entraîneur, c'était costaud. C'était un costaud, brésilien, bon de la tête, et surtout, c'est un brésilien, qualité de relance. Bonjour, quoi. Mais droitier.
Voilà, ça nous fait quelque peu défaut, voilà, les qualités de relance, en l'occurrence. Oui.
Ah oui, parce que Murillo et Cornelius, c'est moyen à la relance, quoi. Voilà. Là, quand même, c'est vrai que c'était la qualité de Kondogbia. Il n'a pas des réflexes de défenseur sur certaines actions, où il a tendance de monter comme un milieu défensif. Par contre, dans la relance, faire des passes, il sait faire.
D'ailleurs, nous l'avons remarqué au niveau pressing de la part des Lyonnais hier, c'était tout sur Valerdi, quoi.
Ah, oui,
c'est lui qui va nous relancer le ballon, quoi. C'est
Oui, c'est clair que la charnière, le relanceur, c'est Valerdi.
Ouais.
Murillo et Cornelius, ils lui rendent le ballon pour qu'il relance. Et donc, tu fermes les angles de passe de Valerdi, tu bloques la relance, voilà.
Il est vrai que j'ai pas eu de grande inquiétude hier au soir, mais quand même, j'aurais bien aimé que Gondombia soit présent aux côtés de Balerdi.
Voilà, parce qu'au moins, ça te démultipliait. Et là, le problème, c'est que Balerdi, il n'a pas fait l'erreur qu'il a pu faire à certains matchs de tenter des relances dangereuses et de se prendre un contre. Ça, il n'a pas fait. Donc hier, on a remarqué que le ballon y tournait, repassait derrière un roulis, et c'est pour ça aussi que tu manquais de pression sur le but lyonnais. Mais il vaut mieux des fois ne pas prendre de risque, tu en prends un,
plutôt que de perdre un ballon de relance malheureuse.
Et le problème dans le système à deux Zerbi avec trois axios et des couloirs, si tu perds le ballon, tu te fais intercepter une relance dans l'axe dangereuse, ça craint.
Oui.
Et si tu as trois défenseurs qui relancent, tu as trois possibilités. Ouais. C'est dur à marquer les trois. Si tu n'en as qu'un, que c'est toujours lui à qui on donne le ballon pour relancer, ton mec, il est en galère.
Ah là, il est plus que ciblé. Donc ça a été le cas.
Je pense que c'est pour ça qu'en première mi-temps, on disait, mais qu'est-ce qu'il fait, balance, tu vois, tant tu ne passes, oui, mais des fois, les mecs sont pris, quoi. Donc, c'est plutôt, personnellement, c'est plutôt une bonne chose de ne pas prendre des risques inconsidérés. Il y a des fois, il faut savoir mettre un grand coup de botte et dégager, parce que, tu vois, des fois, les mecs dans la surface, ils essaient de relancer proprement, te fait intercepter.
Mais j'ai vu quelques dégagements de notre part en fin de match, justement, qui étaient fortement judicieux. Ouais, ouais. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de chercher la relance propre quand il n'y a pas le lieu d'être.
Ah oui, quand tu es à la 92e, que tu mènes 3-2, tu fais attention dans ta surface, tu mets un grand coup de pied, tu balances en touche. Hein.
Les sons de côté, les principes de jeu, préceptes.
Et je pense que de Zerbi, t'engueule pas si tu fais ça. Hein. Voilà. Donc, le mercato, nous verrons.
Voilà. Moi, on pourra vraiment parler la semaine prochaine pour mettre les choses à plat.
Alors, j'en ai parlé, donc le jeune Amar Dedic qui a signé.
Oui.
J'espère Anselmino, parce que théoriquement, puis c'est un Argentin, normalement, ça met les pieds, quoi. C'est guerrier, quoi. Et puis, au milieu de terrain, on n'en a pas parlé, mais on parle de Nicolò Fagioli.
Oui, voilà, on en reparle de cet Italien.
Le joueur de la Juve, qui est un très bon joueur. milieu terrain plutôt défensif, relayeur. Alors, on est à la lutte avec la Fiorentina. Voilà. Mais la Juve se serait cadrée, on se serait cadré sur un accord, un prêt avec option d'achat, plus ou moins pas obligatoire, mais voilà. On sait que Longoria, il a ses entrées à la Juve, mais la Fiorentina fait une relance. Donc, on attend.
C'est vrai que là, entre Benatia et notre président Longoria, je pense qu'ils sont à même, je dirais, de lancer des négociations s'ils tiennent vraiment à ce joueur.
Voilà. Après, on rappelle que l'autre piste au milieu était Ben Alian, joueur qui a été formé à Nice et qui jouait au Hellas Vérone en Italie. Et on a appris hier soir qu'il finalement il s'engage à la Lazio.
Ouais.
Voilà. Qui a dû mettre les ronds et le salaire. Et donc, il signe à la Lazio. Rennes le voulait aussi, mais Rennes, il voulait tout le monde.
Oui.
Donc, voilà.
Il voulait même un autre entraîneur, du coup.
Oui, voilà.
On va pas... Un petit coucou à Bibeye pour la parenthèse.
Oui, lui souhaitant bonne chance.
Absolument.
Il a eu la baraka, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu hier, parce que l'avant-centre de Strasbourg et Mega, le mec qui nous avait mis un but et qui nous avait fait mal au Vélodrome il y a
c'est le moins que l'on puisse dire. Oui.
Il a manqué 3-4 cases très nettes. Hein. Il a mangé la feuille de match. Et grâce à ça, la 89e, il marque un but. Voilà, il gagne. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour Habib, qui est un mec qu'on adore et que c'est très content pour lui. Mais Rennes
se repositionne pour une place, je dirais, en Europe, quoi. Pourrait disputer
à mon avis,
cela.
Pour l'Europe, je pense qu'il faudrait un beau miracle. Mais
ouais, il reste
après,
quand même
ils ont un
matchs,
truc
ouais.
que moi, je trouve inquiétant, c'est-à-dire tu as changé d'entraîneur, et là, ils ont acheté donc, un avançant japonais qui joue au Celtic. Ils ont repris Fofana et Samba. Fofana arrivant d'Arabie Saoudite, Samba de Lens. Ils ont pris un ailier gauche belge que honnêtement je ne connais pas. Ils viennent de re-signer un jeune, j'ai vu ça ce matin, annoncé comme il est à Rennes pour signer, qui est un milieu offensif qui a été formé à Lens mais qui joue en Belgique.
J'ai lu ça également.
On dit que donc, ça serait fait avec Ismaël Koné. Mais il y a un autre milieu de terrain qui arrive. Enfin, je veux dire, tu fais venir 8-9 mecs.
Alors, abondance de biens ne nuit pas, dit-on. Mais parfois, c'est le cas.
Voilà, parce qu'après, tu as les mecs qui y étaient, qui du coup se retrouvent. Tu as des nouveaux qui viennent d'arriver. 8-9 joueurs, il faut les intégrer. Et contrairement à ce que pensent certains présidents américains de l'Olympique lyonnais, un entraîneur, quand il arrive à trouver un équilibre, quand tu lui ramènes 7-8 mecs au mercato d'hiver, comme l'avait fait Pierre Sage, c'est peut-être pas très intelligent de le dégager parce que le mec t'a prouvé qu'il était compétent. Quoi.
Oui, voilà. C'était relativement inélégant, je ne suis pas à la place de ces décideurs-là.
Ah oui, après, c'est leur problème à eux, c'est le problème de Lyon. Moi, je me contente d'en rigoler, mais c'est pas évident. Et là, Bibeye, pour un jeune entraîneur en plus, qui est sa première en Ligue 1, il a 8 ou 9 nouveaux au mercato. Tu as placardisé Mandanda, maintenant c'est irrattrapable.
Ah ben non, c'est fini.
Ils ont dégagé plein de joueurs qu'ils avaient achetés cet été, Grönbeck, Meister, enfin des mecs comme ça. Il va falloir que tu retrouves un équilibre. Ils ont des mecs qui étaient titulaires sous Sampaoli et sous Julien Stéphane qui se retrouve sur le banc sans jouer.
Que voilà les deux entraîneurs précédents et Habib Bey qui.
Ça va être compliqué à gérer. Habib Bey, c'est Pancelotti quoi. T'as pas le nom qui te permet d'aboyer, tout le monde s'écrase quoi. On lui souhaite parce que Habib le meilleur résultat possible, mais quand même c'est un peu un mercato d'hiver, c'est pas fait pour changer 10 bonhommes quoi.
C'est pas prévu pour.
Voilà, c'est pas prévu pour.
C'est quelques ajustements sur ton équipe, a priori, mais ça n'a pas été le cas pour eux.
Donc ça, nous verrons bien et nous en parlerons lundi prochain sur les futurs recrues.
Oui. Essayons justement de finaliser notre mercato, notre marché d'hiver qui se termine, qui s'achève, en espérant que peut-être une nouvelle dans la journée ou fin de journée. Une très bonne nouvelle pourra justement un joueur qu'il nous faut, voire deux.
Et oui, Sampaoli, De Zerbi hier soir a parlé d'un milieu de terrain, ouais. Donc Fagioli, mm-hmm. et d'un défenseur central, donc Anselmino.
C'est la piste la plus probable pour l'Italien, voilà. Puis Anselmino, l'Argentin, c'est bien cela.
En prêt. Ouais. Nous verrons bien, et on ne pourra pas parler des joueurs parce qu'on ne les aura pas vus. Quoi. Mais en fait, on verra bien. Rappelant quand même à nos auditeurs que si tu fais ça en fin de mercato, c'est que voilà, tu n'es pas Manchester City qui est arrivé à Lens, qui a mis 50 millions d'euros sur un jeune ouzbek qui a 30 matchs de pro quoi, et qui joue en Biélorussie l'année d'avant. Oui, oui. Tu n'as pas les moyens. Donc tu fais, tu proposes des prêts, tu essaies d'avoir les occasions. Donc j'en ai parlé de Matistel, de Ferguson, oui, oui. De trucs. Tu as tenté les coups. Ça ne marche pas. Évidemment. Là, on disait, Ben Aliane, ben, il a préféré aller à la Lazio. Voilà. Ben,
finaliser voilà, les meilleures possibilités possibles et voilà, justement et les confirmer.
Il faut que le joueur, il accepte le club, ouais. Il veuille bien. Et quand Matistel, on sait que Marseille, ça ne l'intéressait pas.
Tout un ensemble de paramètres voilà. Qui ne sont pas évidents à la base.
Tu essayais de dire, lui, il veut jouer. Tu proposes au Bayern un prêt sans option d'achat en disant, moi, je te garantis, il va faire 14-15 matchs. Voilà, peut-être que le mec, aujourd'hui, il n'a rien, il vient. Là, il est, oui. Voilà, il est en Angleterre, 60 millions, Tottenham, 60 millions, voilà. C'est pas ton niveau, quoi.
Voilà, ça dépasse l'entendement de nos finances.
Oui.
Voilà. On va peut-être à présent parler un petit peu de nos équipes régionales. Enfin, quand on parle de région, on parle de Martigues en Ligue 2.
Hein. Oui.
Et c'est assez plaisant de voir Martigues qui, enfin, poursuit, je dirais, non pas sa remontada, n'abusons pas des mots. Mais il est vrai que de battre Dunkerque à Dunkerque 1-0, ben c'est une superbe performance de la part des Martégos, et ce qui leur permet évidemment de quitter la dernière place et de passer Caen qui les a succédé 18e avec 15 points, donc en Ligue 2, Martigues est 17e avec 18 points, voilà, permet de revenir un petit peu sur les places de barragistes. Alors, espérons, il y a encore une possibilité de se sauver. Le Restart est 15e avec 22 points, Rodez a 23 points et Ajaccio, bon, une équipe, on ne sait pas si elle sera encore présente en fin de saison, la DNCG le dira, oui. Mais en tout cas, Ajaccio est toujours présent avec 24 points, ça se joue encore, et il faut aller jusqu'au bout. Ouais.
Oui, oui, parce que ce qui est très positif, c'est qu'ils ont enchaîné quelques bons résultats. Ouais. Une victoire à Turquin, ce qui n'était pas
retrouver
arrivé.
Son domicile, voilà. Son stade.
Voilà, et cette victoire à Dunkerque, qui, rappelons-le à nos auditeurs, est une équipe qui joue la montée.
Voilà,
hein.
Qui est 3e.
Ils étaient 3e, avant le match, ils étaient 3e, ils sont 4e maintenant, donc ils jouent les barrages actuellement, ils sont barragistes. C'est une belle équipe. Ah, oui. Tu gagnes 1-0 avec un peu de réussite, mais tu gagnes. Caen est actuellement en crise, puisqu'ils sont derniers, ça fait 2 mois qu'ils ont pu gagner. Ils ont encore perdu chez eux ce week-end, je crois que c'est Guingamp qui les a battus.
Ils étaient déjà en grande difficulté voilà, les 2-3 semaines précédentes.
Et ils viennent de perdre chez eux, ouais. Le public gronde, c'est Mbappé qui a racheté le club, le public gueule. Voilà, et il y a cet élément d'Ajaccio. Donc Ajaccio, financièrement, ils cherchent un repreneur, mais...
Voilà, qui risque de ne pas être avalisé, je dirais, voilà, par la Ligue.
Et s'ils n'ont pas de repreneur, ouais. Ils sont relégués, quoi.
Carrément.
Voilà, c'est-à-dire que là, ils ont été interdiction de recrutement, masse salariale sous contrôle et compagnie. Et,
oui.
Et s'ils n'ont pas un repreneur, ils n'ont pas les ronds.
Ben, n'espérons pas le malheur des autres pour, voilà. Je dirais, récupérer une place...
En Ligue 2, se
en
maintenir.
Ligue 2, mais de se maintenir, mais
y a,
tout de même.
Il y a encore 3 semaines, un mois, on disait c'est mort,
ah, oui,
c'est relégué,
c'était
c'est
la
fini.
Fin de tout. Ouais,
voilà. Ouais. Et puis, ma foi, ils vivent encore et c'est très bien. Parce que c'est vrai que quand ils ont changé d'entraîneur, peut-être ça fait un choc psychologique.
Oui, il a retrouvé son stade.
Il a relancé 2-3 gars, il y a 2-3 blessés qui sont revenus. Un peu de réussite. Voilà, ils ont tenu derrière, d'après ce que j'ai lu dans l'équipe. Maria, le gardien, a fait des miracles.
Oui.
Voilà, il a fait.
J'ai vu quelques images de ce match.
Voilà, il a fait un gros match. Donc, ben, tu ramènes 3 points de Dunkerque, ce n'était pas prévu et ce n'était pas facilement prévisible. Donc, ça leur laisse une petite chance de se maintenir. Se maintenir pour Aubagne, national,
oui,
eux.
C'est pratiquement fait. C'est bien dommage que, parce que là, ils ont failli être dans le trio de tête là, sur le match dernier. Là. Ils sont donc à la 19e journée qui a été disputée ce week-end. Malheureusement, Concarneau a battu Aubagne au stade de l'Âtre à domicile. C'est un grand dommage parce que là, ben, bon, il se trouve que, évidemment, que. Il y a Nancy qui a toujours 36 points, Boulogne 23 derrière, Orléans 29, Dijon est 4e avec 27 points, et Aubagne est 5e avec 27 points. S'ils avaient pu battre Concarneau, ils auraient pu espérer accéder au trio de tête. Mais enfin, ce n'est peut-être pas le but de cette équipe.
Oui, non, je ne pense pas.
Se maintenir en national.
Je pense c'est... même qu'ils n'ont pas intérêt à monter en Ligue 2 parce que. Il y aurait encore des frais sur le stade.
Ça serait trop compliqué financièrement.
Voilà, et... Parce qu'on rappelle que les stades doivent être aux normes et qu'entre le National et la Ligue 2, il y a des contraintes. Donc, ils auront encore des frais à faire. C'est-à-dire qu'ils débuteraient leur saison et ne jouent pas chez eux. Enfin, voilà. Et financièrement, c'est très dur. Rappelons aussi que Concarneau, c'est une équipe qui était en Ligue 2 l'année passée.
Et oui,
Donc c'est une équipe qui est quand même qui a une base solide quand même.
Ça prouve bien la
D'ailleurs,
qualité d'Aubagne et de cette équipe
là. Ils sont juste derrière Aubagne, Concarneau. Ils sont un ou deux points derrière Aubagne. Voilà. Donc mais c'est
derrière
bien.
Le Mans, ouais,
cinquième, le maintien est quasi assuré. Ils apprennent, ils progressent, c'est très bien. Il faut signaler le boulot de Flachaise, l'entraîneur.
Oui. Oh que oui.
Qui a ancien Lyonnais qui a travaillé à Lyon dans les équipes de jeunes et à l'OM, il était entraîneur de la réserve.
C'est un travail de formateur.
Qui est un bon bosseur et que, ma foi, l'équipe fait ses matchs. Et c'est très bien d'être cinquième de national. C'est une belle performance.
Et bravo à Aubagne, véritablement.
À Aubagne, voilà.
Et bon, bah, écoute, on va parler de la D2 féminine très rapidement. Ouais. Bon, malheureusement, ils ont perdu à Metz 2-0. Bon. Un petit coup de moins bien pour les filles, mais enfin, ce n'est pas irrémédiable. Mais il est vrai que c'est assez particulier dans ce championnat de D2 féminine, vu qu'il n'y a qu'une accession pour rejoindre la D1 Arkema, ça va être compliqué. Vu que Lens est premier du championnat avec 26 points, Le Mans deuxième avec 22, l'OM... je dirais A.
Quatrième,
puisque Toulouse est troisième à 18 points, à 19 points, et l'OM est quatrième. Voilà. À 18. Bon, le prochain match, l'OM jouera contre Metz la 13e journée, jouera à domicile. Je ne sais plus pour la 12e journée, mais enfin bref, une chose est sûre, c'est qu'il faudra remporter ce match pour se maintenir au moins en haut de ce classement, espérer peut-être, puisque le championnat n'est pas terminé, une possibilité de passer devant et d'arriver à dépasser Lens. Ça va être assez compliqué.
Après, c'est dit, compliqué parce que la Ligue 2 féminine.
Ah, c'est contre Tonon qu'elle joue
contre Tonon
la semaine prochaine.
Et Tonon.
C'est ça.
Et c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une place.
Et
l'année
dernière,
on était en bagarre avec Saint-Etienne, c'est eux qui sont montés.
D'ailleurs, qui les ont battus en Coupe de France.
Oui, qui nous ont éliminés en Coupe de France il y a quelques semaines. Et donc, c'est quand même le niveau est élevé. Et aujourd'hui, ce qui manque à cette équipe, c'est peut-être 2-3 joueuses de niveau Ligue 1, de bonne qualité, qui les aident à franchir un palier. Parce qu'avec l'effectif actuel, tu montes en Ligue 1, tu redescends.
Parce
que le niveau, il est quand même élevé, sans parler de Lyon et PSG, qui sont hors course.
Oui, après...
Et même le Paris FC, tout ça, c'est costaud.
Notre attaquante, Marie-Charlotte Légier, qui est vraiment une super joueuse, qui venait de Guingamp, par exemple. Derrière, également, une fille qui venait de D1. Mais bon, il faut un peu plus de renfort. Parce que ça ne suffira pas, en tout cas, c'est dommageable pour cette saison.
C'est un peu léger. Et quand tu regardes ces dernières saisons, il y avait Bordeaux, mais l'équipe a disparu avec les... les magouilles de Gérard Lopez, le président de, toujours malheureusement oui, président de Bordeaux.
On commence par les garçons et oui. Ça se répercute pour l'ensemble
voilà.
Du club.
Et oui, oui, le mec, il a dissous son équipe féminine parce qu'il n'avait pas les ronds. Merci, c'est sympa. Et voilà, et on se rend compte que les équipes, elles étaient montées en Ligue 1, Bordeaux.
Et oui.
Parce qu'ils avaient acheté, ils avaient entre autres acheté une Jamaïcaine qui est partie à Paris. Enfin, tu achètes des joueurs, tu as des équipes, des joueuses de qualité. Mmh. Et des fois, il te suffit de 2-3 joueuses pour te faire la bascule. Mais si
c'est
tu viens monter en Ligue 1, pour se maintenir, il faudrait...
Ouais.
On rappelle que l'OM y était il y a 3 ans.
Oui.
Et que tu étais limite et que tu es descendu de pas grand-chose, hein, mais... Des fois, c'est une ou deux filles d'expérience qui font que tu tiens la baraque. Quoi.
Il ne faut pas se précipiter. Voilà. En tout cas, la construction se poursuit. Il y a un encadrement qui est quand même assez performant et qui, j'espère qu'on leur laissera le temps de travailler pour arriver justement à ce niveau-là.
Voilà.
Ça ne se fera pas demain, mais en tout cas, il faut continuer à les laisser progresser et à étoffer cette équipe-là.
Voilà.
Voilà. Ben en tout cas, ben, l'aventure continue pour les filles comme les garçons, ben, en espérant que justement l'OM poursuive ses victoires et sa prochaine victoire qui est à venir.
Hein. Oui.
Ça avance très rapidement, ce championnat. Évidemment que ça place plus vite quand je vois des résultats positifs qui nous concernent, ou parfois ça peut être... Contre sens, et ça peut être le contraire. Mais bon, je reste positif dans cette optique de victoire. Voilà.
Et donc, on rappelle, pour finir, prochaine journée, l'OM joue à Angers.
Oui.
Alors moi, ce qui me fait rigoler, je le dis, ça me fait marrer, c'est que Angers-OM à Angers, stade Raymond Coppa,
oui.
Dimanche 21h45. C'est-à-dire que c'est le match de la journée. Quoi.
Oui.
Je veux bien
j'adore.
Que... Ouais, à la Ligue, on ne nous aime pas, qu'on nous sanctionne, qu'on nous tape dessus. Mais heureusement qu'on est là pour faire les recettes télé, parce que ça fera le quatrième match consécutif où on est le match du dimanche soir. Quoi.
Ils n'ont peut-être pas conscience que beaucoup parmi nous travaillent très tôt le lundi matin. Alors, parfois, il serait bien de mettre quelques matchs à 17h pour ce type d'affiche.
Alors, le prochain match au Vélodrome Saint-Étienne, ça sera samedi 17h.
Ouais.
Be In Sport. Mmh. Donc, c'est Be In qui a choisi le match samedi 17h.
Parce qu'ils avaient la possibilité de le faire.
Voilà, c'est le match de Be In Sport de la journée. Mais je rappelle que l'explication, elle est bien connue. L'OM fait plus de recettes téléspectateurs, et en particulier dans les bars qui louent,
aussi.
Qui ont des abonnements d'Azon. D'Azon, où c'était, ça peut être Bein, ça peut être Eurosport, c'était Canal Plus avant, ça a été Amazon et tout, il y a l'année dernière.
Voilà.
C'est l'OM qui fait le plus de recettes devant Paris.
Voilà.
C'est toi qui casses la baraque.
C'est évident.
Donc, Angers-OM, Angers, c'est le match de la journée à 21h45.
Donc, les diffuseurs restent les décideurs.
C'est là que les mecs, ils regardent. Voilà.
Oui.
C'est là qu'il y a du public. Moi, je sais, j'ai des copains, ils n'ont pas d'abonnement, donc ils essaient d'avoir des places. Quand ils ne peuvent pas, ils vont dans un bistrot, ils vont dans un pub irlandais ou dans un bar... Il y en a plein à la plaine, sur le Vieux-Port, c'est Café.
Ah, ce n'est pas ce qui manque dans notre
ville. À Mazar
ville.
Et tout, il y en a plein partout. Dans tous les quartiers, il y en a. Le bar qui diffuse le match, c'est plein. Voilà, c'est plein. Et il y a un monde de fous. Et hier soir, moi, j'ai eu des échos ce matin de copains, puisque moi, j'ai beaucoup de collègues qui habitent du côté de la plaine. Les bars de Notre-Dame-du-Mont étaient pleins.
Oui,
il y a trois bars. Qui tous retransmettent le match.
C'est évident.
Et c'était plein à craquer, quoi. Voilà.
Bon, tant que les déplacements ne sont pas prohibés ou interdits pour nos supporters, en l'occurrence à Angers, je ne crois pas que ce soit le cas.
Ouais.
Enfin, nous verrons bien cela à chaque chose.
Non,
en
normalement,
temps, priori,
on devrait déjà le savoir.
Ouais, bon.
Mais quoi qu'à Angers, d'ailleurs, il y a 2 ans, il y avait eu des affrontements. Parce qu'ils avaient l'intelligence de mettre des supporters en virage à côté du COP d'Angers.
Je m'en souviens, oui.
C'est subtil comme action, c'est comme si tu mettais d'ailleurs à Marseille l'emplacement des visiteurs, il est en haut des jambouins. Donc un jambouin, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'est pas loin du virage nord, ce qui fait que des fois, il y a des projectiles qui partent les deux côtés. Je me rappelle des matchs de Coupe d'Europe.
On a eu pas mal de soucis, justement, avec nos visiteurs.
Contre Feyenoord, les Hollandais, qui sont très connus. Voilà, on se rappelle qu'il y a une semaine à Lille, en match de Ligue des Champions, ils ont été interdits parce que les hooligans de Feyenoord, de Rotterdam, ils sont connus. Voilà, ils sont européennement connus. Contre les Turcs, on avait voilà.
Je m'en souviens comme si c'était hier.
Des mecs qui tiraient des fusées sur le virage et les mecs qui répondaient, ce qui est intelligent, mais bon, voilà. Et donc, c'est pas évident. Et si en plus tu les mets côte à côte. C'est sûr que ça finit pas bien, quoi. Mais enfin, bon, bref.
Bon, nous, chaque chose en son temps, nous réglerons ces problèmes-là quand nous serons qualifiés et que nous disputerons ces matchs de Coupe d'Europe, la Ligue des Champions en l'occurrence.
Tu parles de la saison prochaine, je pense.
Ouais, j'anticipe très légèrement une suite très logique nous attend.
D'ailleurs, si on veut pouvoir conserver des joueurs comme Rabiot, Højbjerg, Greenwood, il y a intérêt à jouer la Coupe d'Europe.
À minima.
Donc, sinon, ces mecs-là, tu les garderas pas, quoi. Enfin.
Eh bien, Patrick, merci à toi.
Pas de quoi.
Garde la foi et garde ta voix.
Oui.
Et ton talent sera toujours avec nous si tu nous les accompagneras.
Et pourtant, hier soir, j'ai crié.
Eh bien, ça, je le sais. J'ai encore des échos de cela. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine.
Et à bientôt.
Et allez l'OM. Merci, Patrick.